Ok.
Le reste, c'est pour toi. Hein.
T'es sûr?
Ouais, c'est vachement bon, punaise.
Bah, reprends un peu, hein, parce que moi, je suis un peu...
J'ai pas pris de petit-déj ce matin, donc...
Vas-y, vas-y. Moi, j'ai déjà pris un petit-déj.
Mais ça, c'est vraiment pour toi.
Bienvenue à un nouvel épisode de Refaire le monde en 20 minutes avec Nicky
et Nathan.
Et c'est un podcast.
Vous m'oublie pas.
Je te laissais faire. Ah. Nous réunissons toutes les semaines pour refaire le monde en 20 minutes pour discuter un peu de tout et de n'importe quoi. Et cette semaine, Nathan, toi tu es un leader d'église.
Ouais.
Tu es un traducteur et interprète professionnel.
C'est ça.
Mais tu es aussi un designer graphique. Comment tu... Amateur, semi-professionnel?
Amateur.
Amateur.
Surtout parce que j'aime faire ça.
Ouais, et tu...
J'ai pas non plus un level de malade, quoi.
Ça va, je pense, hein. Mais tu...
Ça passe.
Tu es quelqu'un qui est assez facilement créatif.
Ça, c'est sûr.
Et c'est quelque chose qu'on a en commun. Moi, je suis quelqu'un qui est créatif et qui veut être plus créatif, qui a une quelque frustration par rapport aux créativités, on va y revenir sans doute. Mais je voulais qu'on discute un peu aujourd'hui de quel est ton processus créatif, comment est-ce que tu ponds les designs que tu es en train de faire, les projets que tu es en train de faire, comment ça fonctionne chez toi, dans ta tête.
Je suis super spontané et impulsif. Tu sais, tous les meilleurs créatifs que je connais, ils ont des processus créatifs. Notre pote JD, il me parlait un petit peu de l'univers dans lequel il faut qu'il soit pour pouvoir bien créer et tout. On a un autre pote en commun, Jérémy, qui est un illustrateur incroyable, qui lui aussi est méthodique. Et puis, il suit des ateliers avec des pros pour savoir comment le faire mieux et tout. Et, j'ai vu un TED Talk une fois aussi de OK Go, qui est un groupe de musique qui font les meilleurs clips du monde. Alors, si vous ne connaissez pas OK Go, allez sur YouTube tout de suite, mais genre mettez pause au podcast tout de suite. Allez sur YouTube, regardez 3 ou 4 de leurs clips. C'est des trucs, mais c'est presque du miracle en fait, c'est certains des clips. Le clip de The One Moment, c'est, pour moi, c'est un miracle en fait. Je crois pas que c'est humainement possible d'être aussi bon que ça. Mais ils l'ont fait, c'est un truc de fou furieux. Et ils ont fait un TED Talk sur la créativité. Et c'est pareil, il explique son processus créatif un petit peu comme si, bah voilà comment on crée. Et si tu veux pouvoir créer, il faut que tu fasses ça. Et moi, je suis là en mode, c'est pas du tout moi, quoi. C'est juste pas du tout moi. J'ai essayé toutes les méthodes que j'ai apprises les jours où j'ai des blocs créatifs. Je vais chercher un petit peu des masterclass, des je sais pas quoi, pour devenir plus créatif. Et il n'y a rien de tout ça qui marche pour moi. Et à un moment donné, bam, l'inspiration, elle vient. Et d'un seul coup, toutes mes meilleures créas, elles viennent de là, quoi. Toutes mes créas plus moyennes, ça va être des trucs sur lesquels j'ai bossé dessus pendant des heures et des heures. À essayer de trouver un truc qui passe. Et ça passe pas, quoi. Donc, j'avoue que moi, je suis... et je me connais maintenant. Je me connais, je sais qu'il y a des jours où je vais être créatif et faut pas que je les loupe. Et des jours où je vais pas l'être et je vais faire autre chose. Et c'est pour ça, je crois, c'est une des raisons pour lesquelles je pourrais pas être graphiste professionnel. Parce que soit l'inspiration, je l'ai, soit je l'ai pas. Et je suis sûr qu'il y a plein de créatifs là qui vont être en train d'écouter ça. Enfin, bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui vont l'écouter, mais tous les créatifs qui écoutent ça vont être en train de se tirer les cheveux, en train de dire « Mais Nathan, c'est n'importe quoi ce que tu dis. » Et c'est irresponsable d'enseigner ça sur la créativité. Moi, je prétends pas l'enseigner. Moi, je dis juste « C'est mon cas. » C'est mon cas. Je suis ultra impulsif. Et puis, le meilleur truc que je trouve qui m'aide parfois à créer quand j'ai du mal à créer, c'est d'aller sur dribble.com ou sur Behance et de regarder ce que les autres y font. Et de temps à autre, je trouve de l'inspiration pour ça. Il y a quelques petites choses... desquels je reste assez fier aujourd'hui, pour lesquels j'ai eu l'inspiration en allant sur un site, en regardant ce que d'autres ont fait, j'ai trouvé l'inspi et puis boum. Mais pour être très très franc, c'est très rare que ça produise un fruit que ensuite je vais garder. Soit je vais l'utiliser parce que j'ai une deadline, il faut bien compondre le visuel et donc ok vas-y on fait le visuel, mais j'avoue que j'en suis pas fier. C'est souvent des trucs comme ça qui viennent sur le coup. Voilà.
Ouais, et pour moi, quelqu'un qui te regarde en train de créer, c'est des fois où c'est genre, mais pourquoi est-ce que Nathan il fait ça maintenant? Parce que c'est pas le truc le plus urgent, mais ouais, mais t'es vraiment quelqu'un qui est assez...
Très impulsif. Mais par contre, c'est un peu pareil avec la prédication en fait. Il y a des fois où je vais bosser sur une prédication pendant des heures et des heures parce que faut bien que j'apporte quelque chose. Et la Bible est vraie, et la Bible est pertinente, et c'est la parole de Dieu. Donc je vais creuser, et en creusant, je vais bien finir par trouver des trucs qui sont pertinents à dire, et trouver un moyen de les dire d'une façon qui communique. Mais tous mes meilleurs messages, c'est des messages spontanés. Bon, pas forcément spontanés dans le sens où j'ai donné aucune prépa, mais dans le sens où c'est genre, il y a l'inspiration qui me vient, et bam, je sais qu'il y a... Genre, tu vois, c'est un petit peu comme si tout le message me tombait dessus en un seul coup, et après, le seul truc que j'ai à faire, c'est... trouver une accroche d'intro, savoir comment je conclue, mais au-delà de ça, il n'y a aucune réflexion qui vient dedans parce que le message est déjà là. Mais, comme pour la créativité graphique, l'écriture aussi, hein, c'est pareil pour l'écriture. Mes deux bouquins, j'ai décidé de les écrire et j'ai écrit les titres de tous les chapitres, les deux fois. Hein, mon premier livre, il fait 30 courts chapitres, le deuxième, il en fait 14 plus longs. Et j'ai tout écrit vraiment comme ça d'un seul coup, parce que l'inspiration m'est venue et je me suis posé, allez hop, je traverse Matthieu, quelles sont les 30 choses que je peux trouver dans Matthieu à dire sur la masculinité. Et en l'espace de 10 minutes, j'avais le plan de mon livre. Pareil pour Dieu est, j'ai eu l'inspiration qui m'est venue, le premier chapitre, en gros, c'est comme si je venais de lire un article et puis vraiment, j'ai eu le téléchargement de qu'est-ce que je devrais dire dans le premier chapitre, et ça m'a lancé pour le reste du livre.
Ouais.
Mais c'est parce que, et c'est là où je voulais en venir, pour le visuel, pour l'écriture, pour la prédication, pour tout, je suis ultra attentif dans la vie. Donc j'ai un petit côté où il faut toujours que je regarde quelque chose. S'il y a quelque chose qui bouge, il faut que je le regarde. Quand on est dans la rue, toutes les pubs, je les regarde. Je les analyse pas forcément à fond, même si je pense que je les analyse plus que d'autres personnes, mais je suis constamment en train d'emmagasiner de l'information en fait. Et ça, je crois que ça fait partie de mon processus créatif. Mais c'est pas intentionnel. Je le ferais même si je ne créais pas.
Ouais.
Mais je le fais pas, je me dis pas, tiens, j'ai un truc à créer, faut que je sorte pour regarder des pubs. Je suis dans la rue et je regarde tout.
Ouais.
Et les gens, et les vêtements, et tout ça. Quand je suis allé en Guinée à l'âge de 17 ans, le gars qui m'accueillait et qui était un petit peu mon mentor là-bas, il me disait, Nathan, fais super attention parce que c'est mal vu ici de dévisager en quelque sorte les gens dans la rue. On se regarde pas vraiment en fait ici. Et en particulier si t'es occidental, ce sera très mal perçu. C'est comme si t'étais en train de d'analyser ou je sais pas quoi, ou de juger ou que sais-je. Et je trouvais ça super dur de pas regarder. Surtout que pour moi c'était un espace super stimulant visuellement. C'était un univers nouveau que je connaissais pas du tout, avec des couleurs différentes, des odeurs différentes, des façons de faire différentes. Tout était différent. J'avais que envie en fait de tout emmagasiner visuellement, mais il fallait que je fasse attention et en France je fais un peu moins attention. Et il y a entendu des fois des gens me disent, mais pourquoi ce mec il me regarde, il est bizarre. Ou au contraire, des fois quand je suis en train de parler à des gens et je suis en train de regarder autre part, et les gens me disent, mais pourquoi il n'arrive pas à continuer à me regarder de façon fixe, tu vois. Je sais pas, parce que je suis constamment en train de regarder tout. Donc au resto avec Rebecca, on a eu cet épisode une fois où on était au japonais. Et puis j'ai la plus belle femme du monde devant moi. Au resto, on est en seul à seul, c'était peut-être même la Saint-Valentin ou j'en sais rien, enfin, on avait au moins pris le temps de sortir. Mais sauf que derrière Rebecca, il y avait une télé. Et à la télé, il y avait des vieux clips de musique japonaise qui étaient là, et vraiment les clips étaient d'un mauvais, mais je ne pouvais pas m'arrêter de les regarder. Rebecca, elle me disait, mais qu'est-ce que tu regardes? Et je lui dis, je regarde la télé qui est derrière toi, j'arrive pas à m'arrêter. Et elle me dit, mais je suis pas plus intéressante. Je lui dis, mais chérie, tu es suprêmement plus intéressante. Le seul problème, c'est que t'es pas en train de bouger avec plein de lumière derrière, comme... Et donc on dit, ok, vas-y, viens, on change de place. Tac, on change de place. Au bout de 2 minutes, elle dit, mais Nathan, qu'est-ce que tu regardes cette fois-ci? Il y avait un aquarium derrière elle. C'était genre perdu, quoi. Donc je suis très comme ça, je suis très... réceptif au stimuli visuels.
Est-ce que t'es quelqu'un qui a besoin de créer? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont ce genre. Je suis jamais heureux si je crée pas.
Non, je me définirais pas comme un... Il y a des gens comme ça qui se disent je suis un artiste. Tu vois, presque leur identité emmagasinée dedans. Et bien que je crois pas que ce soit 100% sain non plus. Personne n'est un artiste avant tout, ou un sportif avant tout. C'est un mythe, ça. C'est un mythe qui vient du romantisme, et des gens, je pense, se cachent derrière ça parfois, ou en font une identité, un sujet de fierté, peut-être même un sujet d'orgueil de temps à autre, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui ont ce besoin presque viscéral de créer, ça fait partie intrinsèque de qui ils sont, pas moi. Je pourrais très bien ne pas créer, j'aime ça, mais je ressens pas le besoin. Donc on a aussi un ami, enfin en tout cas pour moi c'est un ami proche qui s'appelle Sam, et je sais que pour lui au niveau de la composition de chant, c'est un besoin. Ça fait partie de son bien-être et de son univers. Moi, si jamais je compose des chants, c'est par pure nécessité. C'est parce que je me dis, bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de bons chants qui correspondent à ce thème-là, à cette dynamique de chant-là, hein, en termes de chant chrétien. Donc, ok, je vais essayer de combler un trou, quoi. Et c'est pareil pour le fait d'avoir appris à jouer de la guitare. J'ai appris à jouer de la guitare. Non pas parce que j'avais ce besoin de faire de la guitare, mais parce qu'un jour je me suis dit, bah ok, je suis appelé à être pasteur, qu'est-ce qui se passe si un jour je me retrouve dans une église, une implantation par exemple, où il y a personne musicalement qui tienne la route, j'ai pas envie de me retrouver avec de la vieille musique, donc ok, je vais apprendre à jouer de la guitare, quoi. Donc c'est le fait que j'ai appris de la guitare, c'est basé purement dans la crainte et dans le contrôle, pour être très franc. Et c'est pour ça que j'ai appris à jouer de la guitare, mais j'ai appris très vite, et puis aujourd'hui j'ai un niveau, je peux jouer de façon confiante la guitare lead, même si je suis pas du tout un très bon guitariste outre mesure. Je pense peut-être la batterie, c'est le seul truc vraiment que j'ai commencé à faire, non pas par besoin, mais par envie. J'avais envie de jouer de la batterie, quoi. Et pareil, si jamais je me mettais à jouer de la basse, je le ferais vraiment parce que j'en ai envie, pas parce qu'il n'y a pas de besoin. À ce niveau-là, on peut très bien faire tout ce qu'on fait à l'église sans basse. Pour l'instant, j'ai hâte du jour où on aura des bassistes qui vont claquer. Ah ouais, ouais, non, attends, je suis un gros, gros fan de la basse. Mais c'est pas un besoin immédiat et on s'en sort très bien sans pour l'instant. Mais ça, tu vois, c'est un truc que je pourrais vraiment faire pour le plaisir. Moi, quand j'écoute de la musique, les premiers trucs qui me viennent en tête, c'est la ligne de basse. Même si je l'entends pas, moi je la crée, tu vois. Et je kiffe. Enfin, la basse, c'est mon instrument préféré. Et la batterie, c'est pareil. Donc ça, je le ferai par plaisir. Enfin, j'ai commencé à en faire par plaisir. Même si mon niveau de basse est très très faible. Ouais, mais non, pour tout le reste, c'est pareil, même le design visuel. Hein. Je me rendais compte que dans le monde chrétien, tout ce qui était fait visuellement était d'un moche. Et quand on a commencé à être impliqué dans des rencontres de jeunes, des rassemblements, je me disais, hors de question que je sois impliqué dans ça.
Une bonne affiche.
Ouais, c'est ça, dans un rassemblement qui n'a pas une bonne affiche, quoi. Et comme je savais que j'avais une bonne idée de qu'est-ce qui pouvait être sympa, je me suis dit, bah si au moins j'ai le discernement pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, j'ai au moins une chance de créer quelque chose qui est potable, alors qu'il y a des gens qui sont juste pas du tout conscients visuellement, quoi. C'est pour eux, Comic Sans, c'est une très bonne police, ce qui est faux, qu'on se le dise bien, et c'est pareil, enfin Times New Roman, c'est quoi cette police, quoi. Mais il y a des gens pour qui non, c'est très bien, ça vient par défaut, je me pose même pas la question, mais pourquoi ne te poses-tu pas la question? Donc j'ai fait un premier poster. À l'époque, les trucs qui étaient cool, c'est que les vectors venaient de commencer à être en vogue. Moi, j'avais pas les logiciels pour créer du vector, mais j'ai réussi à piquer des machins sur Facebook, les recolorer d'une façon ou d'une autre. Et on avait une affiche qui était potable. Et puis avec le temps, j'ai commencé à créer. Il a commencé à y avoir quelques trucs que j'ai créés, donc je suis quand même assez content aujourd'hui, quoi. Ouais.
Il y avait une époque, je me rappelle, toi, t'avais eu un label de création, 8-16, ça s'appelait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu pensais que t'allais aller vers quelque chose de graphique professionnel.
Ouais. Ça aussi, ça venait d'un besoin.
Ouais.
C'est que donc j'avais un emploi à mi-temps qui rémunérait suffisamment avec le travail de Rebecca pour pouvoir bien vivre. J'avais un autre boulot à côté. Et puis quand je me suis mis à travailler pour une organisation qui s'appelle Jeunesse pour Christ, je me suis dit, bah le meilleur truc pour moi, c'est de devenir auto-entrepreneur au niveau graphique. J'ai développé pas mal en termes de graphisme, je suis devenu relativement bon, je peux commencer à être payé pour ça. Et donc ouais, voilà, c'était ça le truc 8-16, ça venait je crois de Luc 8-16, c'est Jésus qui dit personne n'allume une lumière si c'était pour le mettre sous un cache-pot. Donc c'était un petit peu mon truc, voilà, on est une belle lumière en tant qu'église, et si on communique mal visuellement, on est en train de mettre un cache-pot dessus. Donc c'était un bon truc, si quelqu'un, un graphiste, a envie de reprendre ça, et ça n'existe plus, hein, l'auto-entreprise là-dessus a fermé. J'ai peut-être toujours la page Facebook que vous devriez pouvoir trouver, mais qui n'a rien dessus depuis 2012 ou j'en sais rien. Ouais, donc voilà, ça c'était un projet pendant un temps qui a tourné pendant un an et demi, mais j'ai eu ni la motivation, ni le temps, ni l'appel pour vraiment le pousser aussi loin que ça aurait pu. Je pense que c'était une bonne idée de branding pour un truc de visuel, mais après moi je suis pas non plus le meilleur graphiste du monde. Si quelqu'un d'autre qui est meilleur en graphisme que moi et qui cherche un brand pour sa boîte de graphisme, puis prenez-le, enfin voilà.
Ouais, moi je suis un grand frustré créatif, parce que je suis aussi quelqu'un qui arrive pas à me focaliser sur une seule peut-être toi aussi, mais arrive pas à me focaliser sur une seule chose, et du coup j'ai envie de chanter, j'ai envie de jouer la guitare, j'ai envie de jouer au piano, j'ai envie de faire le graphisme, je fais du montage, je suis un peu plus J'ai eu du training dans le montage, du coup je suis un peu plus professionnel là-dessus, mais j'ai l'impression que je touche un peu à tout, mais j'arrive à faire rien de très très bon. En même temps, c'est genre un côté de le temps, mais aussi je suis pas quelqu'un qui est naturellement il me faut un cadre de créativité, il me semble peut-être à l'opposé de toi, moi il me faut plutôt un cadre de créativité, mais en même temps si j'ai tout ce cadre là je vais pas nécessairement créer quelque chose de super bon. Et que avant-hier soir, je n'arrivais pas à dormir, du coup j'ai pondu ce truc et je suis super super fier.
6 heures.
Ouais, ça va venir. Mais ça, si ça va pas, tu vois, ça arrive une fois tous les...
Ça va mettre de la dynamite quand c'est parti, hein.
Ouais. Ça arrive une fois tous les mois, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, si j'ai ce besoin de vraiment créer quelque chose ou la nécessité, il y a des choses où j'ai fait un truc. Je me rappelle dans une église où on a travaillé précédemment, il fallait pondre un truc pour une conférence. Et j'ai pondu un truc que j'étais super fier, je te l'ai montré et toi tu disais non, c'est pas le bon truc.
Ouais, non, c'était malheureusement pas le bon truc.
Ouais, mais j'étais fier du truc, mais c'était pas en accord avec la conférence même. Et après, du coup, j'étais genre bon, j'ai passé genre 2 jours à faire ce machin, c'est pas le bon truc, on reconnaît que c'est pas le bon truc. Bon, maintenant il faut vraiment que je ponde un truc rapidement. Et du coup, j'ai pondu un truc plus rapidement, et là j'étais super fier de ce que j'ai fait.
C'était super bien.
Au même niveau de le truc où j'ai passé 2 jours, mais bon, c'était plus dans ce qu'il fallait, quoi.
Ça marchait vraiment.
Ça marchait mieux. Et ouais, du coup, je suis vraiment. J'ai envie de faire plus. Et aussi, peut-être à l'opposé de toi, moi je sens frustré si je crée pas et si j'avance pas. Et du coup, je cherche tout le temps des manières de faire des nouvelles choses et de rentrer plus dans. De m'améliorer. Il y a Jérémy Claes qui est un ami à nous, que Nathan a mentionné. Il a fait des petites zines, je sais pas si tu les as lues, mais sur la créativité. Il écrit des petits articles sur la créativité. Et pour moi, c'était juste une inspiration dans le sens où c'était vraiment. Être créatif, c'est vraiment quelque chose qui est très très particulier, et je pense que les gens qui ne le sont pas ne comprennent pas quelle est cette chose et pourquoi ça prend pourquoi ça prend du temps, pourquoi est-ce qu'on réfléchit tellement sur la créativité en général, parce que je pense qu'il y a vraiment c'est comme accéder à une partie du cerveau qui veut fermer ses portes constamment, pour moi, tu vois. Peut-être qu'ils ne ressentent pas la même chose, mais pour moi...
Non, pas du tout, non. Mais c'est aussi parce que j'ai pas ce besoin. C'est une pièce dans laquelle j'aime bien être.
Ouais.
Et il y a des jours où les portes sont ouvertes, donc je me fais plaisir et je vais y passer du temps. Mais si un jour les portes de ma salle créativité sont fermées, ça me frustre pas. Et puis parfois, elles sont ouvertes, mais j'ai juste pas le temps parce que je dois faire autre chose. Et puis c'est genre, non, bah, ok, c'est pas grave,
tant pis. Alors que moi, je me pose des fois avec mes guitares et j'ai envie d'écrire un truc, parce que j'ai aussi le côté où je vois bien qu'il y a une nécessité et que j'ai une certaine capacité à remplir cette nécessité. Et du coup, je me dis, bon, il faudrait que je fasse ça. Et du coup, je me pose avec ma guitare, j'essaie d'écrire un chant, et tout ce qui sort de ma bouche et tout ce qui sort de ma guitare sonne nul. Et t'as des jours comme ça où t'es
ah
genre...
Ah ouais, non, je les connais ces jours-là. Hein.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais comment jouer la guitare, je sais comment chanter, et il y a des jours où ça se passe très très bien, je suis assez fier de moi, j'ai pondu un truc qui est pas mal, je sonne bien, et c'est même chose pour la louange, hein, pour le c'est un peu différent, mais quand je lis de la louange le dimanche matin, où il y a des jours où c'est genre génial, tout se passe bien, tout est musicalement très très bon, et puis il y a des jours où genre... Il y a rien, genre la guitare elle sonne mauvaise, j'ai oublié tout, je sais pas comment faire sortir les choses qui sont dans le cœur. Et
c'est marrant, au niveau de la louange, j'ai trouvé, parce que je conduis beaucoup beaucoup moins qu'à l'époque, et j'avais vraiment cette expérience aussi là. Il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe moins, et je crois que j'ai réussi à juste en fait à percer, à trouver un mode où, de façon plus ou moins systématique, quand je conduis la louange, franchement, j'arrive à aller là où j'ai envie d'aller, tu vois. Et j'arrive même à conduire les gens quelque part de relativement intéressant.
Ouais. Moi, il y a une différence entre la créativité dans la louange et le mener dans la louange. Du coup, je prends l'exemple des deux derniers dimanches qu'on a fait à Fireplace. Il y a 2 semaines, j'avais l'impression que créativement, on était bon en tant qu'équipe. Et qu'aussi on lidait les personnes dans une louange qui était correcte. Et du coup, ça, j'étais content. La semaine dernière, le dimanche passé, là, j'ai l'impression qu'on a bien mené les gens dans la louange et c'était bien. Et j'ai trouvé que la louange était bonne. Par contre, créativement, j'ai trouvé qu'on était un peu bof. Et que, et du coup, je pense que je suis à une certaine maturité dans ça où je sais faire la différence. Alors qu'il y avait une époque, je savais pas faire la différence entre créativement notre musique elle est mauvaise et vraiment le côté de spirituellement on lit les gens. Et du coup, j'étais relativement content que dimanche, bon, musicalement on n'était pas au top, le système son était un peu bof, etc. Mais on a quand même réussi à conduire les gens de la louange et du coup on est arrivé avec ce qu'on voulait faire et ça c'était bon. Du coup...
et parfois même le Saint-Esprit se sert même de ça, quoi. Moi je pense qu'un truc dimanche dernier c'était que les chants ont été pris trop lentement.
Ouais.
Et donc ça aide pas à ce que nous en tant que conducteurs de louange, quoi, on se sente conduit à aller quelque part, parce qu'en fait les choses traînent. Et tu te dis, pourquoi ça va nulle part? En fait, c'était aussi juste pour moi beaucoup le tempo du chant. Mais en fait, Dieu a fait des choses dans la salle auxquelles on ne s'attendait peut-être pas. Tu vois, quand tu vois la liste de chants, et au bout de quelques minutes, je voyais 2, 3, 4 personnes qui étaient là en train de pleurer et tout, en train de vraiment répandre leur cœur devant Dieu. Et je me dis, ok, c'est vachement intéressant, parce que si on avait pris les chants au tempo normal, classique, on serait allé autre part.
Ouais.
Et sans doute que Dieu aurait fait autre chose, mais Dieu se sert même de ça. Et ça c'est le truc qui est le plus encourageant, c'est que même dans nos faiblesses, on a quand même un Dieu qui dit, ouais, mais t'inquiète pas, je suis souverain là-dessus, tu vois. Et je suis sûr que les visuels que je ponds qui sont les moins bons, ça aura quand même gagné l'attention d'une ou deux personnes clés qui avaient besoin d'entendre ce qu'elle a dit à telle et telle conférence, ou de participer à telle et telle rencontre, ou de... Donc voilà, et je voulais juste dire, c'est marrant ce que tu dis sur le cadre, parce que par exemple, quand tu as refait récemment le logo d'une église, tu as repris les mêmes éléments du logo existant qu'ils avaient, et je crois que c'est peut-être un des meilleurs logos que j'ai vu, mais de ma vie, tu vois, genre, pas seulement de ta part, mais de tout, tu vois parfois des logos où j'ai vu un truc une fois, c'était pour un club de golf qui s'appelle les Spartans, et t'as à la fois un truc où c'est un casque genre Spartacus et en même temps c'est un golfeur qui est en train de faire un gros swing. C'est du génie, ce logo. Enfin, c'est du génie absolument total. Je sais même pas si ça existe, un club de golf qui s'appelle les Spartans, où quelqu'un s'est juste dit, ah bah tiens, je pourrais faire ça, j'ai l'inspiration, je vais le faire, et donc il l'a fait, et il a fait genre qu'il y avait un club de golf qui s'appelle les Spartans. Mais ton logo à toi, il reprend tout, mais alors, d'une part tous les éléments qui sont dans le logo original, mais avec une classe, une simplicité, et de réussir en fait à avoir juste d'allier ensemble dans un seul truc comment on appelle ça,
un phare,
des couleurs un petit peu qui ressemblent à un pull à rayures breton, une croix et la Bible dans un truc qui est juste, mais d'une simplicité et d'une beauté, ça marche, tu vois. Donc moi je trouvais ça super inspirant et ça confirme peut-être ce côté où le fait d'avoir ce cadre où on t'a dit, ok, il faut qu'il y ait la croix, il faut qu'il y ait la Bible, il faut qu'il y ait un phare, et il faut qu'on puisse avoir les initiales de l'Église. Moi je crois que ça t'a fait pondre un truc qui est exceptionnellement bon, quoi.
Je pense aussi que ce cadre m'a beaucoup aidé.
Mmh.
Dernière question, avant qu'on finisse. Si on te limitait à un seul cadre créatif pour le reste de ta vie, on va pas compter la prédication parce que c'est trop facile,
Ouais.
quel le serait pour toi?
Bah, l'écriture. Non, bah, vraiment parce que je crée par utilité et j'ai l'impression que je suis le plus utile en enseignant. Voilà. Et c'est. Donc ce serait l'écriture. Je crois que je serais le plus frustré si j'avais pas le droit d'écrire par rapport à tous les autres. Juste en termes de. Parce qu'il y a autre chose que la créativité qui est là. Qui est une force plus grande que mon drive créatif, c'est mon drive de l'enseignant de la Bible. Mais en termes purement du plaisir que je prends à créer, ce serait la création visuelle.
Merci beaucoup Nathan.
Cool, merci à toi, c'était excellent.
Merci pour cette belle discussion. On peut te trouver sur Facebook.
Facebook.com/Nathan Lambert, c'est un profil, mais c'est pas une page, mais tout est plus ou moins public dessus, donc vous devriez pouvoir voir ce que j'y poste. Et puis l'église dont je suis un des responsables, l'églisefireplace.com.
Cool, et moi c'est Bodzi95 sur Twitter et vous pouvez trouver tout ce que je fais là. Merci beaucoup Nathan, à la semaine prochaine.
À plus, ciao.